La doctrine chrétienne. La doctrine de base du christianisme apparaît dans le credo qui signifie « je crois » des apôtres de Nicée et d'Athanase. Le dogme de la Trinité est établi dans le courant du IVe siècle, et le voici. Il n'existe qu'un Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La doctrine chrétienne repose sur le double amour de Dieu et des hommes. La foi s'affirme elle aussi selon un double postulat en le Christ et en la résurrection. L'homme est libre y compris de refuser la foi. L'essentiel des obligations est une reprise des 10 commandements du judaïsme, la prière principale qui est le Notre Père et la participation à l'Eucharistie, c'est-à-dire la célébration de la messe. Les sacrements, variables chez les catholiques, les orthodoxes et les protestants, recoupent les moments fondamentaux de l'existence que sont le baptême, le mariage et le trépas. La contestation de certains aspects du Nouveau Testament ne survient qu'au XVIIe siècle et surtout au XVIIIe siècle, puisque la Réforme ne remet pas en cause les principaux dogmes. Ce qui est contesté, ce sont les miracles qui sont confrontés aux lois de la nature par les rationalistes ou même la valeur des témoignages sur la vie de Jésus, lorsque l'histoire conquiert ses lettres de noblesse en tant que science à part entière. Cette critique détermine une réaction catholique. Le pape Pie IX publie le 8 décembre 1864 l'encyclique Quanta Cura qui condamne le libéralisme politique. Puis, Pie X en 1907 avec l'encyclique Pacem di Dominici met en garde contre les excès du modernisme.
Le saviez-vous? La croix et la manière. Les chrétiens mirent longtemps à adopter la croix du latin crux, qui signifie poteau ou gibet, comme symbole. On la trouve au second siècle sous plusieurs formes. La lettre X, dite croix de Saint-André, ou la lettre T, dite croix de Saint-Antoine, notamment en Syrie. La croix grecque, dont les branches sont de même longueur et se croisent en leur milieu, ou la croix latine, qui est celle que nous connaissons. En tout cas, jusqu'au IVe siècle, elle n'apparaît que très rarement dans les catacombes. Il faudra attendre la paix établie par Constantin au IVe siècle pour qu'elle se développe en tant que symbole chrétien. Dans les lettres de saint Paul, elle n'est considérée en tant que symbole sacré que parce qu'elle préfigure notre salut et résume la passion du Christ. Aux yeux des Juifs, elle n'a pas cette importance, car ils rejettent l'idée d'un salut émanant d'un Messie ayant été soumis à un supplice aussi abject.
L'islam. Le mot islam signifie au sens propre « soumission à Dieu » et se caractérise par la révélation monothéiste prêchée par Mahomet en Arabie au 7e siècle. Ce terme définit aussi la communauté des adeptes de cette foi, les musulmans, les croyants. L'islam s'est répandu en Asie, en Afrique et en Europe. On estime aujourd'hui à plus de 900 millions le nombre de musulmans dans le monde. Le Coran. Principal livre sacré de l'islam, le Coran, en arabe Al-Quran, qui signifie « récitation », est un code révélé, religieux et social, qui définit avant tout la règle ou la charia qui s'applique aux croyants. Il se compose de 114 sourates, des chapitres divisés en 6200 versets, les ayats, et rassemblés par ordre de longueur décroissante. Le Coran s'ouvre par la sourate dite liminaire, la Fatiha, qui est la plus récitée par les croyants. Le Coran n'a pas été établi dans sa version définitive du vivant de Mahomet. À cette époque, seuls ses compagnons reproduisent quelques fragments de la révélation. Il n'est pas nécessaire de les retranscrire dans leur totalité puisque les croyants connaissent par cœur les sourates. En 652, le troisième successeur du prophète ordonne que soit rédigée la version finale du texte. Celle-ci donne lieu à de nombreux commentaires. Le texte ultime n'est fixé que vers 680 après avoir été noté sur des matériaux de fortune comme des pièces de cuir, des parchemins, des étoffes, etc. Le Coran n'est pas une œuvre humaine aux yeux des croyants.
N'oubliez pas, qu'est-ce que t'as dit? En arabe, le mot « hadith », qui signifie « tradition du prophète, conduite à suivre », désigne des paroles ou actes de Mahomet considérés comme des exemples à suivre par les musulmans. En dehors de quelques hadiths sacrés, considérés comme les paroles de Dieu adressées directement à Mahomet et rapportées par lui, il ne s'agit donc pas d'une parole divine comme le Coran. Ces hadiths forment la sunna, d'où le nom d'islam sunnite, pour désigner le courant orthodoxe. Les hadiths ont été rapportés dans divers recueils, qu'ils soient véridiques ou non, par des musulmans fidèles, parfois longtemps après la mort de Mahomet. Certains auteurs en ont recensé plus de 700 000. Beaucoup de ces citations étaient suspectes. Leur crédit est proportionnel au prestige accordé à ceux qui les ont rapportées. Ces différents recueils alimentent notamment l'opposition entre chiites et sunnites.
Mahomet. L'islam, qui reconnaît les prophètes bibliques Abraham, Moïse, Jésus et Mahomet, voit en Mahomet ou Mohammed son seul véritable fondateur, ce qui se résume par la formule « Allah est grand, il n'a de Dieu qu'Allah et Mahomet est son prophète ». Avant l'arrivée du prophète, la péninsule arabique, tant d'un point de vue religieux qu'économique ou politique, est parfaitement inorganisée. La Mecque, située au fond d'un cirque montagneux, constitue le cœur de l'Arabie. Nomades et sédentaires y forment des tribus indépendantes. Bien que certaines d'entre elles se soient converties au christianisme, les Arabes de la péninsule conservent dans l'ensemble leur religion polythéiste. Un jour, en 610, au mois de Ramadan, l'ange Gabriel apparaît à Mahomet, lui répétant à plusieurs reprises « Récite ». Il sait alors qu'Allah l'a choisi pour livrer aux hommes ses paroles. En 622, Mahomet, qui a perdu ses parents très tôt et épousé une riche veuve à l'âge de 15 ans, quitte la Mecque pour Yathrib. C'est ce qu'on appelle l'Égyre, le point de départ de l'ère musulmane. Une tradition appuyée par une interprétation incertaine d'un verset du Coran fixe à 40 ans l'âge de Mahomet lorsqu'il commence sa prédication. En 10 ans, Mahomet organise un État et une société dans lesquels la loi de l'islam se substitue aux anciennes coutumes de l'Arabie. Une deuxième série de sourates date de son séjour à Médine, de style moins tourmenté que les premières. Ce sont l'œuvre d'un législateur religieux et social, et elles contiennent surtout des prescriptions destinées à organiser le nouvel ordre instauré par l'islam et les sentences définissant un idéal religieux et moral. Après de durs affrontements contre les Quraïchites, le clan d'où Mahomet est issu, la Mecque se rallie à lui en 630. Quelques mois après un dernier pèlerinage d'adieu, il meurt d'une pleurésie en 632. La doctrine de l'islam. L'islam est fondé sur l'adhésion par la foi en un Dieu unique, Allah. Ainsi lit-on dans le Coran à la sourate 112. Dit « Dieu est un, Dieu impénétrable. Il n'engendre pas, il n'est pas engendré. Nul n'est égal à lui. » Pour honorer Dieu, les fidèles doivent accomplir rituellement 5 obligations. La profession de foi, ou shahada, qui signifie le témoignage, elle consiste à réciter la formule « Il n'y a de Dieu qu'Allah et Mahomet est son prophète », le vrai croyant la prononce dans toutes les circonstances solennelles de la vie. La prière, ou salat, les gestes et les paroles en sont rigoureusement fixés. Elle a lieu 5 fois par jour, entre l'aurore et le lever du soleil, en fin de matinée, l'après-midi, après le coucher du soleil et à une heure quelconque de la nuit. Elle ne peut s'accomplir qu'en un état de pureté légale grâce aux ablutions. Le jeûne du Ramadan, qui est institué à Médine en l'an 2 de l'Égyre, est obligatoire et dure 29 ou 30 jours selon le mois lunaire. Il est conseillé de s'abstenir de manger, de boire, de fumer, du lever jusqu'au coucher du soleil. Une exception est faite pour les malades, les enfants, les vieillards, les femmes enceintes ou qui viennent d'accoucher. L'aumône légale ou zakat. Elle consiste à augmenter la fortune des malheureux et des nécessiteux. C'est une façon de lutter contre la pauvreté et la misère. Le pèlerinage ou hajj est obligatoire une fois au moins dans la vie pour ceux qui ont la possibilité matérielle et physique de le faire. Le but du pèlerinage est de se rendre au sanctuaire de la Mecque, le territoire sacré. On n'y pénètre qu'après s'être mis en état de pureté pénitentielle et couvert d'un vêtement spécial.
Un peu de technique. Les mots de l'islam. Djihad, c'est la guerre sainte, l'effort sur le chemin de Dieu. Fatwa, c'est la décision juridique. Hijra, ou émigration, c'est l'égire. Imam, c'est le guide de la prière. Kaaba, ou le cube, c'est le lieu le plus saint de l'islam. C'est un oratoire sacré, construit selon la tradition par Abraham et son fils. Il est le centre du pèlerinage à la Mecque. Khalifa, califé, c'est le successeur. Masjid, petit sanctuaire, c'est la mosquée. Minbar, c'est la chaire à degrés d'où l'imam prononce le sermon. Mufti, c'est le conseiller juridique. Nabi, c'est le prophète. Zakat, c'est l'aumône obligatoire.
Les fêtes de l'islam. Comme les calendriers juifs et chrétiens, le calendrier islamique est jalonné de fêtes dont la date varie d'une année à l'autre car ce calendrier est lunaire.
Le saviez-vous ? Ça suffit. Tirant son origine du mot souf, vêtement de laine blanche porté par ses adeptes, le soufisme apparaît au 8e siècle en Irak. C'est un mouvement piétiste et mystique, écarté par l'islam traditionnel, bien qu'il tende à développer des valeurs spirituelles impliquées par le dogme. Plusieurs écoles apparaissent. Des groupes d'ascètes se forment, menant une vie pauvre et cultivant la confiance en Dieu. Le but est de se libérer de toute attache sensible et de mener l'esprit à la conception de l'unité divine. Ainsi, il est possible d'accéder à la connaissance et de se trouver en état de sainteté.
Les églises réformées. En dépit des efforts des conciles, l'Église catholique n'a pas toujours su mener à bien son désir de réforme. Sous l'impulsion de Luther, puis de Calvin, et enfin, à la suite du schisme anglican, la chrétienté connaît une triple scission. La réforme fonde alors le protestantisme et ses formes essentielles. La tunique sans couture du Christ, qui est le symbole traditionnel de l'unité de l'Église, est déchirée. Tâchons de recoller les morceaux. Le protestantisme. Le protestantisme se définit comme l'ensemble des doctrines et des communautés issues de la Réforme. C'est un mouvement religieux qui tend à rendre au christianisme sa pureté après sa séparation de l'Église catholique romaine. Le mot protestant est appliqué en 1529 aux 5 princes et aux 14 villes de l'Empire allemand qui s'élèvent contre Charles Quint et sa volonté de maintenir le culte de l'Église romaine. Les origines du protestantisme. Né dans un milieu modeste d'ouvriers à Eisleben, Martin Luther rentre après un doctorat de théologie en 1507 dans les ordres chez les Augustins. Devenu professeur, il a connaissance de la vente des indulgences qui sont les pardons des péchés vendus par l'Église catholique et il prend très vite une position sans ambiguïté. Mais, ayant alerté les autorités religieuses pour que cesse cette pratique, il se heurte à un mur de silence. Il rédige alors les 95 thèses de Wittenberg en octobre 1517, où il affirme que seul le sacrifice de Jésus-Christ peut sauver le croyant. En 1520, après avoir brûlé la bulle du pape qui le condamne, il est excommunié et convoqué à la diète de Worms pour plaider sa cause devant les États de l'Empire. Mis en sécurité par son ami le prince électeur de Saxe, il reste une année dans ses États. Il en profite pour retraduire la Bible en allemand. Le luthéranisme prend définitivement forme grâce au texte de Philippe Schwarzerd, dit Mélenchon, qui s'intitule « La confession de foi d'Augsbourg ». La doctrine luthérienne prône le retour aux évangiles et s'oppose à la hiérarchisation de la société ecclésiastique. Cette religion du salut est réduite à deux sacrements, le baptême et la communion. La doctrine protestante. Avant l'initiative de Luther, d'autres hommes aspiraient à un renouveau profond de l'Église. L'affaire des indulgences provoque une brèche qui permet à Luther de récuser l'autorité romaine. Dès 1518 à Heidelberg, Luther précise ses positions et pose les fondements de sa réforme. La justification par la loi constitue la seule voie possible à la certitude de salut. L'homme est un pécheur devant l'Éternel, son salut ne dépend que du sacrifice du Christ sur la croix. Aucun rite ni aucune messe ne peuvent rien y changer. Nous sommes donc condamnés à vivre dans l'état de péché qui est l'état nécessaire au salut. L'autorité de l'Écriture. Cela signifie que le seul véritable critère de la foi du fidèle est la Bible. L'Église doit actualiser fidèlement le message biblique. Le sacerdoce universel stipule que la fonction de prêtre peut être exercée par n'importe quel croyant. Le seul médiateur véritable entre les hommes et Dieu reste Jésus-Christ, le prêtre n'agit qu'en son propre nom. Ainsi, toute distinction entre état ecclésiastique et laïque tend à disparaître et les revendications théocratiques de la papauté sont rejetées. Les pasteurs constituant le clergé sont nommés par les différents chefs d'État. La doctrine de Luther soutient encore une position particulière au sujet de l'Eucharistie. Le catholicisme croit en la transsubstantation, qui est la transformation de toute la substance du pain en corps du Christ et de toute la substance du vin en son sang. Les luthériens, eux, croient à la consubstantiation, c'est-à-dire la présence dans le pain et le vin du corps et du sang du Christ, conjointement à la substance même du pain et du vin. À la mort de Luther, le luthéranisme se substitue au christianisme dans la moitié de l'Empire, en Prusse, ainsi que dans les États scandinaves. Ses conséquences politiques sont importantes, puisqu'il brise l'unité allemande et ainsi affaiblit l'autorité de l'empereur. Le calvinisme. Issu de la doctrine de Jean Calvin, le calvinisme mène à la création des églises calvinistes dites réformées ou presbytériennes. En 1550, les calvinistes, qui sont les protestants français, sont appelés huguenots par les catholiques. Les origines du calvinisme. Colportées par d'ardents prédicateurs comme Guillaume Farel, les doctrines de Luther, puis bientôt celles du Suisse Zwingli, se répandent bientôt dans toute la France. La publication en 1536 de l'Institution de la religion chrétienne, œuvre d'un jeune Français réfugié à Bâle, favorise cette diffusion. Il s'agit de Jean Cauvin, dont le nom sous sa forme latinisée, Calvinus, donnera par la suite Jean Calvin. Né à Noyon, en Picardie, en 1509, Calvin fait des études de droit aux universités d'Orléans et de Bourges. En 1531, il s'installe à Paris et publie un commentaire du De Clementia de Sénèque. En 1533, il cesse d'être catholique, influencé par la pensée de Luther. C'est aussi la date à laquelle éclate l'affaire des placards. Ce sont des lettres apposées sur la porte de la chambre de François Ier, dénonçant la messe et le rite catholique pour la plus grande colère du roi. Changeant d'attitude, celui-ci va cesser de considérer les protestants avec une certaine bienveillance. Calvin doit s'exiler à Bâle, puis à Strasbourg. Ses travaux sur l'Épître aux Romains et sur l'Eucharistie datent de cette époque. Il est rappelé en 1541 à Genève par les autorités de la ville, il y ouvre une académie et y reste jusqu'à sa mort en 1564. À la même époque, des églises calvinistes apparaissent aux Pays-Bas, en Hongrie et en Allemagne occidentale. En France, la menace de schisme annoncée sous François Ier se traduit sous Henri II par l'édit de Compiègne en 1557, qui décrète la peine de mort contre les hérétiques, ce qui désigne en réalité tout protestant confondu, et annonce en germe les guerres de religion.